France Culture.
Les midis de culture continuent. À 13h, je recevrai Jean-Xavier Delestrade pour sa série Les Vivants à voir sur France Télévisions. Mais tout de suite, place au point culture. Bonjour Sophie-Catherine Gallet.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux plateformes d'écriture et de lecture en ligne, et notamment à la plateforme Wattpad. Encore peu reconnue, c'est un phénomène qui n'a pourtant rien de marginal, avec pas moins de 90 millions d'utilisateurs dans le monde pour cette plateforme, et surtout d'utilisatrices. Mais comment les internautes s'emparent-ils de ces textes et comment ces écrits vivent-ils au-delà d'Internet? C'est notre dossier du Point Culture du jour. Delphine Chedaleux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de technologie de Compiègne. Vous êtes aussi spécialiste des cultures populaires féminines et vous avez mené une enquête sur deux plateformes d'écriture en ligne, et notamment celle qui s'appelle Wattpad. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette plateforme et est-ce qu'en fait on peut parler d'un réseau social de l'écriture ?
Alors, Wattpad, c'est une plateforme qui a été créée en 2006 par une entreprise canadienne, qui fonctionne sur un modèle marchand, puisqu'il y a des contenus gratuits et des contenus payants. C'est une plateforme qui revendique aujourd'hui plus de 90 millions d'utilisateurs et utilisatrices dans le monde, donc qui concerne beaucoup de monde. Et qui effectivement a la particularité d'hybrider en fait la lecture d'histoire, l'écriture d'histoire, puisque ce sont les utilisateurs et utilisatrices qui publient eux et elles-mêmes les histoires sur la plateforme, et la conversation effectivement, puisque chaque histoire peut donner lieu à des commentaires auxquels tout le monde peut répondre, etc. Et chaque utilisateur et utilisatrice a par ailleurs un profil. C'est effectivement un type de plateforme qui hybride en fait l'activité d'écriture, de lecture et de conversation.
Alors, il faut aussi mentionner que c'est une plateforme qui est plébiscitée essentiellement par des jeunes femmes. 80%, si je ne me trompe pas, des utilisateurs sont donc des utilisatrices. Comment vous expliquez cet engouement auprès de ce public-là en particulier ?
Le dernier chiffre connu, en tout cas que moi j'ai recensé, c'est celui-ci. Effectivement, 80% d'utilisatrices qui d'ailleurs ont moins de 30 ans. Et c'est lié au type de contenu qu'on trouve sur la plateforme, puisque on y trouve essentiellement en fait de la romance et de la fanfiction qui sont historiquement liés au féminin et qui sont plébiscités historiquement par les femmes.
Alors justement, donc vous le dites, la romance fait partie un peu des genres plébiscités. Et dans votre étude, en parlant de la lecture de romance, donc notamment, vous écrivez que ces plateformes fournissent un cadre sécurisé qui permet donc aux utilisatrices et utilisateurs de se penser comme un sujet sexuel à part entière. Alors, qu'est-ce qui permet ça justement dans ces plateformes selon vous ?
En fait, ces plateformes, de façon un peu contre-intuitive, en tout cas, c'est ce que tend à montrer mon enquête qui est encore en cours. Donc tout ça sera à vérifier et à documenter de façon plus précise dans les mois à venir. Mais disons que ce que j'observe pour l'instant, c'est que ces plateformes permettent une certaine intimité, notamment parce que on peut y trouver une diversité de contenus très très importante, qu'on peut faire correspondre de façon très précise le type de contenu qu'on va trouver et l'état émotionnel dans lequel on se trouve sur le moment, etc. Parce que les histoires sont rangées, étiquetées avec des tags qui font référence de façon extrêmement précise au type de contenu qu'on va pouvoir trouver, au type de relations amoureuses, sexuelles, etc. qu'on va pouvoir trouver dans l'histoire qu'on va lire. Un contenu érotique très explicite et très peu modéré, dans lequel on peut s'adonner à une forme d'exploration de soi, d'exploration émotionnelle, de découverte de soi aussi, de sa sexualité, puisqu'on parle de très jeunes femmes. Donc voilà, c'est un cadre qui permet de s'isoler de la scène familiale, en fait, et de la scène sociale plus largement, et d'accéder à du contenu érotique.
Et donc ne plus se sentir, en fait, comme objet sexuel, justement.
Oui, ça c'est lié à l'histoire plus générale de la romance. La fanfiction, elle est écrite à partir d'un point de vue essentiellement féminin, et donc historiquement, c'est un lieu où effectivement les femmes, alors les autrices et les lectrices, se pensent et se posent comme des sujets sexuels à part entière.
Et les contenus écrits sont essentiellement des romans feuilletons, et les romans feuilletons, c'était très populaire au XIXe siècle, de nombreuses œuvres d'Alexandre Dumas par exemple été écrite selon ce précepte. Est-ce que vous voyez là une forme de continuité adaptée à notre époque, mais ou est-ce que sinon vous voyez d'autres ramifications historiques de cette pratique ?
Oui, en fait, on peut vraiment voir ces plateformes comme les héritières, en fait, de types de publications populaires. Sur Wattpad, par exemple, on publie les histoires de façon feuilletonnante, puisque les histoires sont publiées chapitre par chapitre. Les chapitres peuvent d'ailleurs donner lieu à des commentaires qui vont éventuellement influer l'écriture des chapitres suivants, etc. Donc ça, c'est vraiment l'histoire du roman feuilleton, en effet, tel qu'il apparaît au XIXe siècle. Et puis ensuite, plus largement, ces plateformes, ce sont les héritières des publications à bas coût qui démocratisent l'accès à l'écriture, l'accès à une littérature populaire. Et une grande partie de ces publications à bas coût sont dédiées à la romance, en fait, hein, aux histoires sentimentales.
Alors, on a par exemple donc des utilisateurs, vous l'avez dit, qui commentent des paragraphes, qui les discutent entre eux. Et une grande partie des utilisateurs aussi, si j'ai bien compris, sont à la fois écrivains et lecteurs. Est-ce que cette manière d'aborder le texte, finalement, ne remet pas en question la relation entre lecture, écriture, mais aussi critique ?
Oui, alors c'est vrai que donc l'une des particularités de ces plateformes, c'est d'hybrider complètement la lecture et l'écriture. En fait, la romance est un lieu privilégié d'écriture pour les femmes. C'est un lieu où les femmes ont et continuent de pouvoir écrire de façon presque anonyme, j'ai envie de dire, donc sans déranger personne. Et ces femmes elles-mêmes sont souvent lectrices. En ce qui concerne la critique, ce qui se passe sur ces plateformes n'intéresse absolument pas la critique. Donc en fait, il y a assez peu de regard extérieur qui est porté sur le type de récit qu'on trouve sur ces plateformes, mais sur le récit sentimental d'une manière plus générale.
La lecture, mais aussi l'écriture sur cette plateforme sont des pratiques encore assez peu représentées, comme vous venez de le dire, dans l'espace public ou culturel dominant. Et pourtant, il y a des maisons d'édition qui ont conclu des partenariats avec Wattpad. Alors, est-ce qu'on peut quand même considérer que les romans écrits sur cette plateforme font partie entièrement de l'écosystème de l'édition ?
Aujourd'hui, ces plateformes, c'est des acteurs à part entière du marché de l'édition sentimentale qui est en plein boom, puisque par exemple entre 2022 et 2023, la romance a doublé ses chiffres de vente et a doublé aussi le nombre de titres parus. Donc c'est en passe d'être l'un des genres les plus lus en fait aujourd'hui à l'échelle de la France, mais aussi plus largement à l'échelle mondiale. Elle conclut des partenariats avec des éditeurs. Wattpad a par exemple conclu des partenariats avec Hachette, qui a des filiales dédiées à la romance et qui va chercher sur ces plateformes les contenus les plus populaires qui sont ensuite édités. C'est le cas de Captif, par exemple, de Sarah Rivens, qui fait des chiffres de vente records. Donc oui, ce sont des acteurs à part entière, effectivement.
Merci beaucoup, Delphine Chedaleux.
Merci à vous.
Suite de l'actualité culturelle, le prix Albert Londres a été remis ce week-end à Beyrouth.
Oui, la délégation du prix Albert Londres était réunie ce samedi dans la capitale libanaise pour sa 87e édition. La journaliste Julie Braffman est lauréate de la catégorie presse écrite pour ses chroniques judiciaires parues dans les colonnes du journal Libération. Jules Giroda et Arthur Bouvard ont reçu quant à eux le prix Albert Londres audiovisuel pour leur série documentaire Le syndrome de la Havane. Le prix du livre a été attribué à Elena Voloshin pour son enquête Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine, paru aux éditions Autrement. Enfin, un prix d'honneur a été décerné au journaliste Gazaoui.
Art contemporain à présent, Art Basel Paris vient de clôturer son édition 2025.
La grande foire d'art contemporain s'est terminée ce dimanche et ce fut un succès pour les exposants. Tous décrivent une accélération des ventes alors que le marché de l'art connaît depuis plusieurs mois une baisse de son chiffre d'affaires. Cependant, une action anonyme, quelque peu passée sous les radars, a tenté de bousculer l'harmonie de cet événement. Lors de la soirée d'ouverture, les noms d'une trentaine de personnalités du monde de l'art accusées de harcèlement, d'agression ou de viol ont ainsi été affichés dans les toilettes du Grand Palais. Un geste qui cherche à dénoncer les violences sexuelles souvent tues dans un monde de l'art encore hermétique au mouvement MeToo.
Et pour finir, Sophie Catherine, une recommandation de sortie à Paris pour les vacances scolaires.
Oui, la Maison de la Culture du Japon, située dans le 15e arrondissement de la capitale, a inauguré il y a quelques jours sa nouvelle exposition consacrée à Isao Takahata, un des pionniers de l'animation, cofondateur avec notamment Hayao Miyazaki des célèbres studios Ghibli. C'est à lui qu'on doit par exemple le film Le Tombeau des Lucioles. L'exposition retrace sa carrière en montrant ses carnets, des dessins originaux ou encore des storyboards, l'occasion de découvrir l'œuvre poétique et novatrice du réalisateur japonais. L'exposition est visible jusqu'en janvier prochain et est gratuite pour les moins de 18 ans.
Merci beaucoup et à demain pour d'autres actualités culturelles. Il est 13h, vous écoutez les Midi de Culture.